Disons-le tout de suite, Gilles, le livre, il est extraordinaire.
Merci beaucoup.
Et il est extraordinaire. Je ne veux pas mourir seule, c'est extraordinaire. Ça a certainement été assez, bon, peut-être le mot bouleversant à écrire, quoique le mot s'applique peut-être moins à l'auteur qu'au lecteur. Bouleversant, c'est un des mots de ce qu'on peut ressentir, mais quand on est face à un livre dont on sent que quelqu'un a tout mis, a tout dit, qui a une urgence de dire, une urgence d'écrire, et que la personne s'est complètement mise à nu devant nous, totalement. Il y a peut-être des morceaux que tu as gardés, mais qu'on ressent ça.
Ah ben, s'il y en a que j'ai gardé, j'aimerais bien ça les trouver.
Oui, mais c'est ça, en fait. Ça confirme ce que j'ai ressenti en lisant le livre. Il y a tout ce que tu es et ce que tu pouvais dire et ce que tu pouvais dénoncer de toi-même aussi.
Dénoncer, non, mais regarder sans... Pardon, j'ai bu trop de café ce matin. Regarder sans complaisance. Qui souvent est le pire défaut qu'on a devant les difficultés, qui est la complaisance.
Il n'y a aucune complaisance là-dedans.
Qu'est-ce
que c'est l'antithèse de la complaisance? Qu'est-ce que c'est le contraire de la complaisance?
Une sorte de rigueur morale et intellectuelle par rapport à soi.
Une lucidité impitoyable aussi.
Impitoyable, c'est un grand mot.
Ouais, il y a des portraits, il y a des pages de
portraits.
Il y a des pages d'un portrait que tu fais de toi-même, de ce que tu as été, de ce que tu peux être à certains moments donnés, que je pense que même le pire de tes ennemis ne pourrait pas t'arriver à la cheville et
être
plus... Ah,
mais parce que le pire de mes ennemis n'est pas mon talent.
Oui, Gilles, la voix qu'on entend en ce moment au micro, c'est pas ta voix habituelle. La voix que j'entends là.
Non, mais là, j'ai pris trop de café. Elle était correcte ce matin en me levant.
Mais c'est la voix de quelqu'un quand même qui a suivi, qui a suivi des radiothérapies.
Oui.
C'est une voix qui a été modifiée par des traitements.
Ma voix était revenue. Si on avait fait l'entrevue hier, ce serait correct. Alors, je sais pas ce qui arrive ce matin.
Ta voix est revenue. Donc, si on parle de ta santé, auto-fiction, là...
Bon, ça va, la santé, on n'en parle pas.
On ne parle pas de la santé. On n'en parle pas, mais ça va bien aller, parce qu'il en est beaucoup. Quoi que la santé... Alors, on peut parler
c'est
de maladie.
C'est pas la santé dont je parle, c'est la mort, ou l'idée qu'on se fait de la mort, ou comment on se prépare à la mort, ou... voilà.
Comment on vit un chagrin d'amour.
Ah, mais ça, c'est plus difficile que se préparer à la mort.
Oui. Le chagrin d'amour, c'est la pire chose.
Oui.
Oui. Le pire chagrin d'amour. La pire chose, c'est un chagrin d'amour?
Bon, ben, y a mille chagrins d'amour, mais...
Le tien.
Disons, il y en a quelques-uns qui... tu sais, je pense, quand j'ai commencé à écrire ça, je pensais à Annie Ernaux qui a écrit Une passion, qui est un peu une autofiction du même genre. Et je voulais dire que la... que pour certains, l'amour, c'est la vie. Et qu'il est irremplaçable parce qu'il prend toute la vie. Et qu'il invente la vie aussi. Hein. L'amour, c'est comme un parfum qui est toujours là. Et non pas comme, tu sais, les trucs qu'on annonce à la télé là, qui font pch-pch seulement quand tu passes. Tu sais, mais le parfum est toujours là. Et quand tu perds ça, tu perds la vie.
Puis l'amour reste, puis le manque voilà. S'installe, et puis la vie, elle est vécue seulement à travers un manque. Il y a dans cette autofiction, il y a une chose que tu dis.
Il y a beaucoup de fiction dans cette autofiction.
Je sais pas, il y en a certainement. Mais
bon,
je pense
exemple,
que les oui quoi.
Je ne vis pas à Trois-Rivières.
Non, moi c'est ce que moi voilà. C'est. Écoute. À mon œil, mais là, on va pas régler tout ça ici. À mon œil de lectrice, c'est la seule chose que j'ai accepté de reconnaître comme une autofiction.
D'accord, OK.
C'est la seule. Pour le reste, la force de l'écriture, la force de ce qui est dit, la présence intense, ta présence intense, et ce que tu dis intensément, et l'empathie qu'on a par rapport au manque que tu vis, Je l'ai ressenti et c'est seulement dans cet élément de Trois-Rivières que j'ai dit tiens, c'est là la fiction. Le reste, on est dans l'auto. Il y a une chose que tu dis à un moment donné, pour les gens qui nous entendent, pour que vous suiviez bien la conversation, c'est pas un roman, c'est pas un univers inventé, c'est Jules Courtemanche qui parle d'un chagrin d'amour et qui parle en même temps d'un cancer qui saute sur lui parce que son corps est devenu vulnérable. Tu me corriges, je parle parce que je sais que tu peux me corriger.
Non.
Parce que son corps heureux et amoureux n'était pas malade, mais son corps abandonné et sans amour peut tomber malade et tombe malade. En fait, le mal s'installe en toi.
Les deux, non, les deux s'installent en même temps. Et c'est pour ça que je dis à un certain moment, c'est comme s'il y avait deux morts. Et je sais jamais laquelle est laquelle, tu vois, parce que il y a la mort de l'amour et il y a la mort possible de la maladie. Et au fur et à mesure de l'écriture, je me suis rendu compte que ce qui me tuait le plus, c'était la vie et non pas la peur de mourir.
La vie sans le personnage que tu appelles.
La vie vide.
Sans Violaine.
Oui, c'est ça. La vie sans le bruit des pas dans le corridor pendant que tu fais la cuisine. Ouais. Voilà.
Moi, j'ai. Et tu le dément dans le livre, mais j'avais l'impression que de lui dire à elle quelque chose qui n'avait pas été dit, qui n'avait pas été montré, à quel point, par exemple, tu l'as mal aimé, de dire la douleur à quelqu'un. Ça, non, c'est de dire l'urgence de dire à quelqu'un à qui on ne peut plus parler, avec qui on n'est plus en contact, d'être brûlé par le besoin de dire quelque chose à une personne.
Non.
Il n'y avait pas ça?
Non, pas du tout. Tu vois, la voix est en train de revenir.
Continuer comme ça avec des déclarations, okay. Puis non. Tu vas vouloir les contredire, ça va être bon.
On découvre toujours qu'on a mal aimé quand l'amour est parti. Parce que si on le découvrait pendant, je veux dire, on se corrigerait. Hein, tu vois, si on y tient. Alors, on découvre toujours trop tard. Et quand il est trop tard, il est généralement inutile de parler. C'est-à-dire de parler à la personne concernée. Parce que le Rubicon a été passé, tu vois. Cette personne-là est dans une autre vie et toi, t'es dans une autre vie. C'est des planètes différentes qui sont pas dans le même système solaire. La seule utilité de parler, c'est de penser que d'autres personnes vivent la même chose. Et que le travail de l'écrivain, ça on l'oublie souvent, c'est de parler pour les autres, hein, qui n'ont pas le don de la parole. On dit les journalistes sont les oreilles du public. Parfois, les gens qui écrivent peuvent être la parole des gens qui n'en ont pas. Et c'est ça l'utilité.
C'est ça le moteur. C'était ça, c'est de parler au lecteur.
Oui, je le dis.
Je sais que Trois-Rivières, je savais que c'était de la fiction.
Non, mais
ton affaire, je sais que tu
moment,
le dis, mais peut-être, c'est vrai, je suis pas un écrivain.
J'écris pour le con l'autre côté du bar qui se laisse pas embrasser par sa blonde parce qu'il y a du monde autour.
Ouais.
Et qui ne sait pas, à ce moment-là, qu'elle est en train de décider de le quitter.
Comment est-ce qu'on peut vivre avec autant de regrets?
C'est pas des regrets. J'étais mal fait, donc j'aimais mal. Voilà. Est-ce qu'on regrette pas d'être petit? Je veux dire, on est petit. On regrette pas d'être blond, on est blond. Alors j'étais un peu tout croche dans ma tête. Donc, j'aimais croche, voilà.
Oui, il y a l'imparfait, donc tu n'es plus croche.
Je suis un peu moins croche.
T'as compris quelque chose.
J'espère.
Oui, Il semble. Alors, tu es que, bon, il y a toutes sortes de phrases que j'ai notées, j'ai souligné les trois quarts du livre. Et puis, je l'ai reçu personnellement. Tu l'as écrit pour qu'on le lise et pour parler à quelqu'un. Je veux dire, je l'ai reçu. C'est un livre qu'on reçoit. J'écris pour dire que j'ai raté ma vie. C'est assez impitoyable, c'est assez définitif comme jugement sur soi-même.
J'ai l'impression qu'on n'est pas capable de se regarder au moins une fois dans sa vie sans complaisance. On est vraiment minable. Et en plus, ça a l'air grandiose ou grandiloquent. J'avais un peu envie d'écrire ma propre épitaphe.
Ouais.
Tu sais, j'avais pas envie que quelqu'un dise dans une église, c'était un grand journaliste au cœur généreux et machin, voilà.
Alors toi, tu as préféré
voilà,
dire...
Voilà, ils ont le texte.
C'est un gars qui se sent supérieur aux autres, voilà. Qui a raté sa vie, qui boit trop, qui fume trop...
Non, c'est fini,
qui
ne
s'est pas aimé...
Non, c'est fini, ça.
Où est-ce que tu es maintenant? T'es qui maintenant, Gilles Courtemanche?
Pas grand-chose... J'ai l'impression de vivre quand j'écris, voilà. Alors, c'est pas comme j'écris une heure par jour.
T'as l'impression de vivre, parce que ça aussi c'est évoqué, là. T'as l'impression de vivre quand tu écris,
ouais.
Comme t'as l'impression de vivre quand tu aimes ce que, en tout cas, pendant que tu écrivais ça, tu n'avais plus. La vie n'était pas là parce qu'elle n'était pas là, ouais. Mais l'écriture te le donne quand même.
L'écriture est... C'est une béquille. Quand j'écris, je me trouve un peu intéressant.
Je me demande, en même temps, tu les rejetteras mes questions, puis ça va bien, au moins je peux les poser. Mais quand on a dit ça, quand on a écrit ça, quand on s'est montré comme ça, puis quand on a dit quelque chose d'aussi viscéral, avais-tu écrit quelque chose d'aussi viscéral que ça avant?
Oui, la fin d'un dimanche à la piscine à Kigali, qui est le carnet de Gentille, qu'elle écrit sur le fait qu'elle est violée, etc., etc. C'était aussi douloureux à écrire, quelque part, c'est un mauvais mot, mais aussi prenant, angoissant à écrire que ça, un peu.
Après ça...
Et la fin de Le Monde, le Lézard et moi. Où le personnage principal se retrouve seul en Bretagne avec son lézard qui meurt de froid et qui dit à la fin « Je ne veux pas mourir seul ».
Qui est le titre de ce livre-là. Comme cette idée d'écrire son épitaphe, plutôt que quelqu'un d'autre en dise une autre plus impersonnelle et peut-être moins impitoyable.
Mensongère.
Peut-être plus généreuse.
Sûrement mensongère. On est tellement gentil avec les morts, hein. Je veux dire, quand Duplessis est mort, on n'a fait de lui que des éloges. On a attendu 25 ans avant de dire que c'était un trou de cul.
Alors toi, tu me dis tout de suite.
Oui, voilà.
Ouais. Gilles, des traits de ton caractère, là, que bon, des gens qui te connaissent plus, et c'est toi-même qui te dénonces, alors, des gens qui te connaissent plus ou plus intimement ont vu, tu les nommes. Des gens qui te connaissent moins les connaissent un peu moins, puis des gens qui te connaissent un peu plus loin, mais c'est vrai que tu peux apparaître comme quelqu'un d'assez taciturne, hein, pas facile d'accès. Tu dis, depuis que t'es enfant, puis que t'as gagné le concours du petit garçon le plus intelligent, tu te sens supérieur aux autres. Ben, tu donnes souvent l'impression que tu nous prends de haut, c'est vrai. Est-ce que tu voyais pas ces choses-là de toi, que tu écris maintenant, d'une manière aussi cinglante?
Il y a toujours une part d'exagération dans l'écriture. J'étais pas si pire que ça. Mais effectivement, le milieu dans lequel j'ai été formé, ma famille...
Ta famille qui juge.
Le fait que j'ai eu, quand j'étais petit, des succès scolaires que je trouve absolument ridicules, là. Tu sais, genre être obligé d'apporter des boîtes à l'école pour apporter les prix à la fin de l'année, là, parce que tu sais d'avance que tu vas avoir tous les prix qui sont là. C'est faut être un saint pour pas avoir un sentiment de supériorité. Et j'étais pas un saint, tu vois. Et souvent, les gens qui t'aiment sans s'en rendre compte, t'encouragent là-dedans. Tu sais, ils disent, ah, qu'est-ce que t'es intelligent, ah, qu'est-ce que t'es brillant, ah, bravo, etc., etc. Alors, t'en veux encore, tu vois, t'en demandes. C'est comme le chocolat, ou le vin rouge, le bon vin. Et tout ça, bon, c'est pas une excuse, mais c'est une explication. Donc, oui, souvent, j'avais... C'est-à-dire, je donnais l'impression que je me pensais supérieur. Mais comme je me suis jamais aimé, je me suis jamais pensé supérieur. Je pensais que je connaissais plus de choses que les gens, mais les choses qui sont dans les livres. Mais je savais que la vie, je connaissais pas très bien.
Est-ce que c'est parce que tu t'étais jamais aimé que, selon le jugement que tu portes sur la manière dont tu as aimé cette femme, que tu as perdue parce que tu l'as mal aimée, est-ce que c'était parce que tu ne t'aimais pas que tu aimais mal?
Ouais, bon, ça, on va tomber dans la psychologie
101,
pop,
là?
là, café du commerce ou je
Oui,
sais
mais
pas
quand
quoi.
même.
Je sais pas s'il y a un rapport entre les deux. J'ai jamais... J'ai toujours trouvé un peu ridicule la phrase « Avant d'aimer quelqu'un, il faut s'aimer soi-même. » Bon, j'ai aimé énormément et je m'aimais pas du tout. Donc, je suis pas certain que ce soit vrai. Mais il y a peut-être une part de ça. Mais une part dans le fait que tu aimes tellement l'autre personne que quand l'autre personne disparaît, c'est comme si toi, tu disparaissais aussi. Parce que tu te trouves tellement petit à côté de l'autre. Et bon, c'était mon cas.
Ouais, puis tu te vois à travers les yeux de l'autre personne
Bien sûr,
qui t'aime plus. En
oui.
fait, c'est ça qu'on a de toi.
Oui.
C'est ce que tu nous montres, c'est ce que tu penses qu'elle voit.
Qu'elle a vu, oui, peut-être.
Oui, qu'elle a vu.
Pardon.
C'est ça qui donne aussi beaucoup de force à ce livre-là.
Ouais, mais je me trompe peut-être. Peut-être qu'elle a vu plein de choses que j'ai pas encore vues, moi, et dont je suis pas conscient, mais...
Ouais. Le fait que cette question-là, toujours des personnes réelles, des personnes qui existent, ta mère, elle est évoquée ici.
Ouais.
Elle existe, ta mère. Ta
Oui.
sœur, elle est évoquée. Elle existe.
Bah non, ma sœur, c'est la
C'est de la
sœur dans le
fiction.
roman, c'est vraiment de la
C'est
fiction.
de la fiction. Mais c'est pour ça,
Mais
elle est too much,
non,
cette sœur-là.
non, mais
Ouais.
j'ai quatre sœurs,
Ouais.
hein. Et ce sont quatre femmes admirables,
Mm.
mais qui ont une qualité que moi je n'ai pas, c'est des positivistes. Alors ma sœur là-dedans, c'est toutes mes sœurs, quoi, d'une certaine manière. Mais c'est aussi tous les gens. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin, que je nommerai pas, et qui m'a dit. Bon, ben, tu sais, c'est la vie, mais ça va aller mieux demain. Alors, arrêtez de me dire ça. Je veux dire, j'en ai marre de tout ce discours sur la résilience. J'en parlais avec Guilla tout à l'heure, juste avant d'entrer en studio, où ne passe à la télé que les gens qui... disent, ah, j'ai vécu les pires choses qu'il n'y a pas dans la vie, mais il y a tellement de beau dans la vie, les oiseaux, le chocolat, les amis, le théâtre, n'importe quoi, que je suis heureux ou heureuse malgré tout ce qui m'est arrivé. La majorité des gens sont pas comme ça. Je veux dire, quand ils ont peur de mourir, ils chient dans leur culotte. Quand ils perdent leur blonde, ils sont finis. Et ceux-là, ils parlent jamais. On les voit pas. Et pourtant, ce sont les gens qui existent. Et C'est un peu en leur nom, c'est prétentieux, ça.
Maintenant, il ne se passe plus rien. En fait, Gilles, maintenant, tu ne laisses rien passer. C'est un peu en leur nom que tu as écrit ça, c'est ça?
Ben, c'est pour parler à leur place, disons. Ouais.
Mais on n'est jamais aussi universel que quand on parle de soi-même.
Oh,
c'est un autre
pas.
Cliché ouais, que je te balance, bon, mais d'accord. Ça n'empêche que c'est vrai.
Non, mais
tu as
le droit, c'est ton émission.
Le droit d'aligner les clichés. Ouais. C'est Goethe qui disait que les livres devaient être écrits avec leur sang.
Je sais pas.
Mais en tout cas, si c'est Goethe qui le disait, celui-là, il est écrit
et
avec...
Et enfin, quelqu'un qui a plus de culture que moi.
Ouais. Mais si c'est vrai, là, si c'est lui qui l'a dit, mais il y a de ça. Ce livre-là, il est écrit avec la vie, avec ce qui a été vécu fortement, intensément.
Non, mais tous les livres sont écrits avec la vie. C'est pour ça que j'ai beaucoup de difficultés à écrire ces jours-ci. Mais... Celui-là est vraiment écrit avec la vie collante et puante et belle, comme la vie est.
Mais j'imagine qu'après avoir... Tu l'as terminé quand, ce livre-là?
En novembre ou en décembre.
Ça doit être difficile d'écrire quelque chose tout de suite après ça?
Non, pas vraiment, parce que j'ai toujours un truc qui est en chemin, qui est déjà commencé. Alors, ça me sert de tremplin, tu vois, pour passer à autre chose.
On va t'en parler beaucoup. C'est quand...
Je ne sais pas.
Je pense qu'on va t'en parler beaucoup. Je pense qu'il va... Ce que je pense, ce que je souhaite, c'est qu'il va être lu par beaucoup de gens. Je le souhaite aux gens. Je leur souhaite de le lire. Si on a une curiosité pour toi, alors là, c'est incontournable. Et puis si on est un être humain en chair, en os, avec ses limites, avec ses laideurs, avec ses tristesses, avec ses peurs, avec ses maladies, avec sa triste humanité, ben là...
Mais avec la beauté à la fin aussi, c'est-à-dire la sérénité plutôt à la fin.
À Trois-Rivières.
Oui, à Trois-Rivières. Rue des Forges, dans une librairie qui n'existe pas.
Et j'avoue que même s'il a fallu recourir à la fiction pour y arriver, c'était inattendu par rapport à l'ensemble du livre qu'une lumière apparaisse à la fin.
Non. Il paraît que quand on va mourir, il y a un couloir lumineux.
Merci beaucoup, Gilles.
C'est moi qui te remercie.
Autofiction, Je ne veux pas mourir seul, Gilles Courtemanche, quoi qu'il en dise, c'est extraordinaire. Mais là je ne pense pas qu'il va me contredire. Merci, Gilles.
Bye.
Il est là, Edgar Fruitier. Dans ton livre, il apparaît, Edgar Fruitier. Oui, tu dis, si j'aimais la musique autant qu'Edgar Fruitier, je pourrais trouver la vie belle,
oui.
Mais j'ai pas ça.
Ouais. Mais malheureusement, je n'avais de passion qu'une femme.
Alors, c'est Edgar et Georges maintenant. Georges Nicholson et Edgar Fruitier. Au revoir, Gilles Courtemanche.
Ouais, merci.